de manière incontrôlable, compulsive, jusqu'à l'obsession, avec des pensées envahissantes, angoissantes, de façon permanente, et qui perturbent la vie quotidienne. Comment savoir si c'est un TOC ? Contrairement aux simples manies, qui sont des habitudes contrôlables, les TOC ont un impact sur la vie, créent une certaine souffrance, gêne dans le travail, les études, les relations. 2 à 3% de la population générale est concernée. La maladie débute avant 25 ans dans 65% des cas. Les personnes effectuent des gestes ou des actes mentaux répétés, sont préoccupées par le contrôle de soi et des situations, la peur de se faire mal ou de faire du mal à autrui, obsession de la contamination, hygiène, nettoyage excessif, douche très longue, lavage des mains jusqu'à l'irritation, par peur d'être contaminé ou sali, et on fera de même pour la maison. Des compulsions de vérification excessive, se tromper, oublier. On la craint de porter malheur ou qu'un malheur se produise, comme la peur de provoquer un incendie en laissant la gazinière allumée. Il y a aussi des troubles d'accumulation, ne pas jeter, amasser, collectionner de nombreux objets inutiles. Tous ces comportements ne sont pas évidents pour les autres. Dire à un proche qu'il pourrait avoir des TOC est délicat. Choisir le bon moment, éviter qu'il se sente attaqué ou jugé, décrire des faits concrets, lui proposer de l'aide, à trouver un professionnel s'il veut en discuter. Par contre, le tic, est un mouvement ou un son involontaire et rapide. Cligner des yeux, hausser les épaules, émettre un petit bruit, faire une grimace. Mais la majorité des tics sont bénins et passagers. La fatigue, le stress, l'excitation augmentent les tics. Beaucoup d'enfants ont des tics en période scolaire, lors de changements importants, en cas de tension interne. Une activité physique, un sommeil régulier, de la relaxation font diminuer les tics. Derrière chaque tic et chaque obsession, il y a une personne qui lutte en silence. Comprendre, c'est déjà alléger le poids.
Merci. Et bien maintenant, un petit jeu à la mode, un quiz sur les peurs, bien sûr. Nous vous donnons le nom et vous nous donnez la peur. Pyrophobie.
C'est la peur du feu.
Oui. Bien. C'était hein? Cadeau, ça.
Ah, c'était cadeau. Alors moi je continue avec la spectrophobie. Allez,
spectrophobie. Peur du spectacle.
Ben non. Non. Vous le voulez? Peur des miroirs.
Ben on a un expert là avec
nous. Je l'avais pas celle-là. C'est pas commun. Ouais. Ça c'est dans les films d'horreur en général.
Allez, un autre. Entomophobie.
Anthropophage, on a la racine.
Les insectes, non?
Oui,
les insectes.
C'est ça. Les insectes. Il y en a qui sont forts. Hein, alors attention, pogonophobie.
Les pieds?
Non. Les pieds. Pogo.
Pogo.
Peur des barbes. Pas de bol, monsieur Perron.
Ah, moi, je pensais que c'était les métalleux. Ils n'aimaient pas être dans les pogos. Ah.
Alors là, accrochez-vous. Hein. Ouais. Moi aussi, d'ailleurs. Arachibutyrophobie.
Oh là là, oh là là.
Presque ça. Ah, oui, presque ça.
Presque. Ouais, alors, je vais vous le donner quand même. Ouais. C'est surtout les Américains. C'est la peur que le beurre de cacahuète reste collé au palais.
C'est bien américain, ça, quand même.
Hein. Ça, comme quoi, je vous disais que c'était chacun son histoire.
Et la didascalénophobie. Didascalénophobie.
La peur des disques
microsillons.
Non,
alors,
didascalie, la peur d'aller à l'école.
C'est
une phobie. Oui, dista. Voilà, c'est ça.
Aujourd'hui, on dit phobie scolaire.
Oui, c'est plus simple.
Et ça, c'est très, très commun aujourd'hui chez les beaucoup d'enfants.
Mais on parle aussi de phobie administrative.
Phobie sociale.
C'est ceux qui rejettent
les papiers.
C'est ça.
Moi, j'en fais partie. Absolument désagréable.
Allez, je vous en donne un qui est cadeau, là. Cynophobie.
La peur du cinéma.
Des chiens.
Des chiens, exact.
Des chiens, c'est ça.
Ah oui.
Et l'oclophobie. Alors, moi, j'ai... Oclophobie, j'ai eu du mal à le
Définir.
À le définir, oui.
Je ne sais pas du tout.
C'est la peur des foules et des rassemblements.
Ah oui.
Donc, on ne peut pas confondre avec l'agoraphobie.
L'agoraphobie, dans la plupart des gens utilisent l'agoraphobie.
J'ai peur d'être enfermé.
Un autre cadeau. Aviophobie.
Oui.
L'avion.
L'avion, non,
un peu c'est en ça. Avion, exact.
L'avion, oui,
c'était facile. Et alors là, super cadeau, claustrophobie.
La peur de
d'être enfermé, enfermé sur ça,
des espaces clos,
les espaces clos,
l'ascenseur ça, et tout ça.
Ouais. Allez, un petit autre. Misophobie.
Miso. La médecin
Non. Allez, je vous le donne. C'est la peur des germes et des infections.
Ah, d'accord. Alors attention, moi je continue. Alectorophobie.
Peur de la lecture.
Non. Eh bien c'est drôle, c'est la peur des poulets et tout ce qui est un peu galinacé.
Ah bon?
Ouais.
Mais ça tombe bien, je suis végétalienne.
On poursuit. Amaxophobie.
On est passé.
Amaxophobie. Non.
Mais c'est par la racine, c'est assez, du mot, c'est assez dur à trouver. C'est la peur de conduire un engin, donc la peur de conduire, les engins en général.
Alors là, c'est facile. Nyctophobie.
Peur de l'obscurité.
Voilà.
Très bien.
Oui. Les gens nyctalopes. Voilà.
Ah oui.
J'ai peur. C'est ça. Je pensais que vous alliez parler du groupe de chanteurs.
Et là, je vais vous donner la phobie la plus répandue au monde. Eh bien, c'est la peur de parler en public.
Ah.
C'est la première dans le monde entier, toute civilisation confondue.
Oui. Ok, bah, écoutez, c'est terminé le petit florilège des mots imprononçables.
Ça s'appelle comment, la peur ?
Alors, je vois que vous en avez barré une, l'hémétophobie, la peur du vomi. C'est quelque chose de très répandu. Été étonné quand j'ai commencé à travailler de voir le nombre de gens qui avaient cette peur-là, qui est très peu connue et très peu médiatisée, mais la peur du vomi est très présente.
Ah bon.
C'est la peur d'exprimer le mal en soi, d'exprimer ce qui ne va pas en nous.
Ah, c'est la peur de vomir, c'est pas la peur de boire du vomi.
Les deux.
Ah d'accord.
Souvent les deux en même temps.
Ah oui, d'accord. Ok. Écoutez, eh bien, normalement, c'est Florence qui a eu un empêchement bien indépendant de sa volonté, qui malgré tout a tenu à nous livrer sa chronique. Et finalement, c'est Marie-Claude qui s'en charge. À toi, Marie-Claude.
Alors, je vais essayer de retraduire ce qu'elle a écrit et surtout les noms absolument imprononçables. Alors, je ne vous les dirai pas tous. C'est pour ça qu'elle appelle, elle n'a pas voulu. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est étonnant de voir que même avec des millions de femmes, de fans, excusez-moi, et des vies en apparence parfaites, les célébrités ont leurs peurs, ont des peurs totalement insolites. Donc, derrière le glamour, il y a souvent des phobies assez surprenantes. Tout d'abord, Jennifer Aniston et Whoopi Goldberg s'ouvrent d'aérodromophobie. C'est le peur de l'avion. Moi, je croyais que c'était l'aviophobie. Voilà. Justin Timberlake, et c'est l'arachnophobie, la peur des araignées. On en a déjà parlé. Alors, accrochez-vous. Catsaridodaphobie, peur des cafards qui gâchent la vie de Scarlett Johansson.
C'est qui ?
D'autres phobies. Alors, l'épidophobie pour Nicole Kidman, qui a des palpitations dès qu'elle voit un papillon. La coulrophobie pour Johnny Depp, qui a une peur démesurée des clowns. La reine de la pop, Taylor Swift, est terrifiée à la vue d'un oursin. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Madonna, qui souffre de brontophobie, qui est une peur irrationnelle du tonnerre et des éclairs. La peur des vaches, ou bovinophobie, entraîne chez Kate Winslet une détresse émotionnelle intense. Alors, un truc rigolo, celle-là. La bananaphobie, qui peut faire sourire, bien sûr, caractérise Louane, qui a confié souffrir dès l'enfance d'une peur bleue des bananes. Mais c'est jaune, les bananes, non ? Jennifer a la phobie des oiseaux. Encore quelques-uns. Pour Cadmalé, c'est la phobie des pieds. Bon. Virginia Efira a une peur irraisonnée des deux roues. Tout à l'heure, on avait de conduire. Marion Cotillard a la phobie des injections, ce qui lui fait dire que le Botox ou tout autre produit censé rendre plus jeune ne sont pas pour elle. Phobie pas très glamour, les métophobies affectent la chanteuse Chaim. Et je terminerai cette liste à l'après-vert par Michel Drucker, que l'on sait hypochondriaque assumé. Donc, nul n'est parfait.
Rediffusion d'une émission Principe Actif. Une rediff, quoi.
Nos ancêtres, les Gaulois, cheveux blonds et tête de bois, longue moustache et gros dada, ne connaissaient que ce refrain-là. Nos ancêtres, les Gaulois, habitaient des huttes en bois, et les druides, trois par trois, sous le gui chantaient à pleine voix.
L'éternel optimiste Henri Salvador, faut rigoler. Et maintenant, c'est...
Neuf, bonjour. On vous dit presque tout. De vous à nous, on va peut-être vous dire tout.
Oui, alors nous allons continuer avec Sylvie et une expérience vécue.
Oui, eh bien écoutez, j'ai le témoignage d'une amie qui s'est interrogée à un moment de sa vie. Bon, elle avait une maman très précautionneuse, peut-être un peu trop. Et cette petite fille qui la voyait avec bienveillance et amour, bien sûr, tout désinfecté dans la maison a reproduit dans sa vie d'adulte des manies, comme se laver les mains toutes les 3 secondes, très souvent, c'est même effectivement, et ce besoin que tout soit assaini, que tout soit parfait, enfin voilà, c'était vraiment une obsession quoi. Elle a donc fini par comprendre que c'est son enfant intérieur qui reproduisait en partie ce qu'elle avait vu, entendu, petite. Elle a pu du coup, en en parlant, relativiser et alléger ses manies au fil du temps. De base, bien sûr, c'était une qualité pour cette maman pensant bien-être de sa famille, mais c'était juste un peu trop too much.
MC, Gertrude, Florence sont allées à la rencontre de Madame Inano Richeton, sophrologue, lors d'une de ses séances.
Nous sommes en présence, là, Florence, Gertrude et moi-même, MC, à la résidence senior de la Madeleine avec Inano, une sophrologue qui intervient auprès des résidents tous les 15 jours. Donc Inano, je vous laisse vous présenter déjà.
D'accord, bonjour. Donc Inano, je suis sophrologue depuis, ça va faire presque 10 ans maintenant. Et oui, comme vous le disiez, j'interviens dans des résidences autonomie, mais j'interviens également à la Ligue. J'interviens également dans une association sportive, enfin multi-activité plutôt. Mais là, c'est plutôt de la sophrologie, un peu comme avec vous que je fais.
Alors oui, donc Inano, quel exercice priorisez-vous chez les seniors ?
Alors les mouvements du corps, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est très important pour les seniors de bouger un minimum. Après les exercices, j'essaie d'adapter les exercices à chaque personne, mais le maître mot en fait c'est de proposer aux personnes qui participent d'être attentives à ce qu'elles ressentent, attentives à leurs inconforts, quand c'est léger, mais aussi à leurs douleurs, et elles sont pas obligées de tout faire. Donc vraiment, le maître mot, c'est de s'écouter, d'écouter son corps, d'écouter ses douleurs, d'écouter ce qu'il nous dit. Alors certains seniors font vraiment tout, vraiment un peu comme Marie-Claude, sont vraiment très actives. Et puis il y en a d'autres qui ont, ben, qui ont plus de difficultés, soit de vertige, soit au niveau des genoux, soit voilà, et qui font vraiment ce qu'ils peuvent ou ce qu'elles peuvent.
La respiration, je pense, est importante aussi dans la pratique de la sophrologie.
Oui, de toute manière, pendant les mouvements, on adapte, on synchronise beaucoup la respiration avec les mouvements. D'accord. Donc oui. Et puis après, il y a des, alors il y a, quand j'interviens dans les résidences autonomie, j'ai deux parties. J'ai une partie gym, enfin une partie mouvement, corps en mouvement, et une partie plus statique sur chaise, où là on travaille la respiration, la lecture du corps, la visualisation ou évocation selon comment sont les personnes, si elles sont capables de voir, et on fait une méditation, une relaxation également.
Alors quel bienfait en tirent-ils tous ces résidents?
Alors déjà, je pense que ce serait eux qui pourraient vous répondre.
On les interrogera tout à l'heure.
D'accord, mais sur les retours que j'en ai, ben, c'est en fin de séance, c'est beaucoup de détente, beaucoup de relâchement au niveau des tensions. Certaines personnes me disent qu'elles avaient mal quelque part en début de séance, et à la fin elles ont moins mal ou plus mal du tout. Donc je pense que c'est selon leur capacité à lâcher, ça peut apporter beaucoup de bien-être et de bénéfices, mais tout le monde n'est pas capable de lâcher même pendant une séance.
Bon, le sujet de notre émission, ce sont les phobies, donc c'est pour ça qu'on vous a demandé d'intervenir. Et en quoi donc la sophrologie peut aider à affronter ces phobies, à votre avis?
Par la visualisation, d'abord par la respiration, c'est toujours pareil, et puis aussi par la visualisation. Souvent, on propose aux gens de se confronter par la visualisation, j'ai du mal à le dire, hein, en revivant une phobie.
D'accord.
De se confronter, rien qu'en, alors, j'ai pas travaillé sur beaucoup de phobies, mais j'ai travaillé avec quelqu'un sur le vertige. Donc voilà, on travaille dans la visualisation sur un vertige qu'elles auraient pu connaître ou qu'elles imaginent. Voilà, je suis pas capable de monter en haut d'une échelle parce que je vais avoir le vertige. Voilà, et on travaille beaucoup là-dessus, et la respiration, elle est vraiment essentielle dans les phobies.
Parce qu'effectivement, je me suis un petit peu renseignée sur les phobies, puisque c'était le sujet de notre émission, c'est toujours l'occasion effectivement de se renseigner. Et a priori, donc, il faut se confronter à ces phobies. Il faut pas les ignorer d'après les études. C'est qu'en fait, si on a peur du vide, il faut se confronter au vide, parce que plus on s'en protège, plus notre phobie va s'installer.
Oui. Ben, surtout que les phobies, en fait, notre cerveau est là pour nous protéger, donc d'un danger. Beaucoup de phobies, par exemple la peur des araignées, par exemple, d'une petite araignée qui passe au sol, il n'y a aucun danger. Donc c'est apprivoiser cette peur, apprivoiser cette phobie, et se dire, mais mon cerveau, voilà, il est bien, il me protège, mais là, il n'y a rien à craindre. Là, j'ai pas de crainte à avoir d'une petite araignée qui passe ou... Voilà.
Eh bien, je vais passer donc la parole à Gertrude.
Est-ce que ce sont des séances individuelles ou collectives?
Ce sont pour la plupart des séances collectives, mais j'ai pu faire des séances individuelles suite à des séances collectives, en effet, parce que les séances collectives, on est plus général, on travaille pas. Par exemple, la phobie, il faudrait que tout le monde ait une phobie, parce que voilà, on peut confronter une personne à sa propre phobie, mais pas un groupe à la phobie d'une personne. Donc, en groupe, ce qu'on aborde est beaucoup plus général. Alors qu'en individuel, on est vraiment centré sur la personne. Donc, il y a eu des personnes qui, au sein des groupes, m'ont dit, ben moi, j'aurais besoin d'une séance individuelle. Notamment, elle est plus là. Je crois que cette personne, il y avait une personne ici qui m'avait demandé pour Parkinson. Je sais pas si vous vous souvenez. Que j'allais voir une fois par semaine en plus pour l'accompagner dans sa maladie.
D'accord. Mais comme le thème de notre émission, ça va être sur les phobies, quelles sont les phobies qui reviennent le plus souvent?
Alors, ben, comme je disais tout à l'heure, c'est surtout la peur du vide, beaucoup. Un peu la peur des araignées, mais bon, les personnes, ça empêche pas de vivre quand on a peur des araignées, parce qu'on en a pas tout le temps. Il y a un peu, alors c'est pas de l'agoraphobie, parce que c'est pas la peur, vous savez, de la foule, tout, mais c'est vraiment, parce que l'agoraphobie, les personnes ne sortent pas. Là, c'est des personnes qui ont peur de se mêler à un groupe, qui ont peur d'intégrer un nouveau groupe. Qu'est-ce que j'ai eu encore comme phobie? Alors, moi, je représente pas tous les sophrologues, mais dans ma pratique à moi, ça a surtout été la peur de se lancer dans quelque chose de nouveau, la peur de quitter quelque chose de confortable pour un travail qui ne leur convient plus ou tout.
Est-ce que vous avez vous-même des phobies?
Alors, phobie, non. J'ai quelques peurs, des petites peurs, mais des phobies, non. Non, non. Parce qu'une phobie, c'est vraiment... C'est plus que d'avoir peur. Hein. Une phobie, c'est vraiment... Ça bloque, ça paralyse. Moi, j'ai pas ça, non.
Je voulais vous demander, donc, les phobies, combien de séances pensez-vous, en général, qu'il faut pour ne plus appréhender nos peurs ou...
Alors, d'après mon expérience, entre 5 et maximum 10.
Retrouvons notre invité Maximilien Perron. Et tout de suite, ma première question. Comment avez-vous trouvé nos échanges ?
Très enrichissant et instructif. Je trouve ça très intéressant de passer de ressentis plus subjectifs, des petites études de cas, on pourrait dire, confrontés à quelque chose d'un peu plus généraliste, avec des définitions un peu plus précises. Donc ça me paraît toujours pertinent comme ça d'aller chercher des connaissances précises et en même temps de les appliquer au réel.
Est-ce que, là, on va parler maintenant qu'on va continuer à parler de la phobie, mais un petit peu d'autre chose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la différence entre un psychologue et un psychiatre ? On se pose souvent cette question.
En effet, je pense que c'est une différence qui n'est pas toujours très claire dans la tête des gens. Et donc, on va la redéfinir. C'est assez simple. Au final, le psychiatre, lui, est médecin. C'est-à-dire qu'il a d'abord fait des études de médecine et il va se spécialiser en psychiatrie, comme il pourrait se spécialiser en neurologie ou en cardiologie. Et donc, il va faire une spécialisation de plusieurs années. Il me semble 3 ans pour les psychiatres à l'heure actuelle. Alors que le psychologue, lui, a un diplôme reconnu et un titre reconnu de psychologue. Mais donc, c'est un diplôme universitaire, alors à mon époque on disait DESS, aujourd'hui c'est Master 2, un Master 2 de psychologie, avec des fois des spécialisations dans différents domaines, la psychologie sociale, la psychologie du développement, la psychologie et la justice. Moi par exemple j'ai été spécialisé en psychologie et justice à la base, pour travailler avec des personnes délinquantes, des psychopathes ou du genre de choses. C'est vraiment la distinction énorme entre les psychologues et les psychiatres, c'est que le psychiatre est médecin. Et donc il a des prérogatives spécifiques, le psychiatre, c'est-à-dire qu'il peut prescrire des médicaments comme n'importe quel médecin au final, et aussi faire des ordonnances, avoir des remboursements de sécurité sociale que les psychologues commencent tout juste à avoir de manière un petit peu déséquilibrée. Ça c'est un autre débat. Et les psychiatres peuvent faire aussi interner les gens, par exemple. Ils ont ce pouvoir de contrition, pas de contrition, de coercition, que les psychologues n'ont pas. Et d'ailleurs, c'est l'intérêt de cette différence, c'est que les responsabilités sont réparties différemment entre le psychologue et le psychiatre. Et donc, c'est des métiers qui sont complémentaires, sachant que les psychiatres souvent travaillent avec des pathologies, on pourrait dire, plus lourdes, des gens qui sont psychotiques, qui ont une sorte de symptômes psychiques très, très lourds, et qui vont des fois passer par la case hôpital ou ce genre de choses. Alors que les psychologues, nous, on reçoit, on va dire, des gens un petit peu plus lambda, monsieur tout le monde, et sachant qu'on a tous, comme on le disait tout à l'heure, notre petite folie privée.
Gertrude, oui. Voilà. Moi qui ai travaillé dans le social, on m'a toujours dit que je ne suis pas tombée là-dedans par hasard. Alors je voulais savoir qu'est-ce qui vous a amené à
qu'est-ce qui, moi, m'a amené à travailler en psychopathologie? Une histoire personnelle, en effet. Moi, je suis issu d'un couple lesbien. J'ai très peu connu mon père et j'ai eu 2 mamans pour le prix d'une. Donc déjà, c'est une bonne raison d'aller chez un psy. Et puis, deuxièmement, ma mère était psychologue aussi. Donc, c'est quelque chose... j'étais un peu baigné là-dedans. Sachant que jusqu'à mes 18 ans, jamais j'aurais pensé devenir psychologue. J'avais absolument pas envie. Je voulais devenir artiste ou prof d'histoire. Donc, rien à voir. Et puis, en terminale, j'ai fait de la psychologie. On a étudié Freud avec ma prof de philo, et là je me suis rendu compte que quand même ça m'intéressait sacrément et que je me sentais à l'aise là-dedans.
Michel, pardon.
Alors que l'heure était réputée pour être un désert médical, mais j'ai l'impression qu'on est quand même pas mal pourvu en psychologue.
Eh bien, tout à fait, oui. Alors ça, c'est assez récent d'ailleurs, parce que moi, quand je suis arrivé à Évreux, il y a une quinzaine d'années maintenant, on était une petite vingtaine de psys avec beaucoup de psychiatres en fin de carrière. Et donc, il y a un moment, il y a eu un vraiment creux de la vague. Et suite au Covid et l'arrivée, je pense, de beaucoup de personnes de Paris ou de la région parisienne, on est aujourd'hui à une cinquantaine de psys sur Évreux, donc ce qui est me paraît presque excessif par rapport à la population. Mais bon, voilà, je pense que ça, c'est des choses qui évoluent au fil du temps et qui se régulent tranquillement.
Comme quoi, il y a la température et le ressenti.
Exactement.
Michel.
Alors moi, j'ai lu dans une revue qui s'appelle Epsilon qu'il y avait de plus en plus de personnes qui consultaient l'IA. L'intelligence artificielle.
En effet.
Et alors, est-ce que vous savez ce que c'est que les... Alors, moi, je ne sais même pas comment ça se prononce. Chatbot.
Les chatbots, oui, ChatGPT, Gemini, ou toutes ces Google, ou genre de choses. Alors, en effet, j'ai même déjà eu des patients qui m'ont dit s'être entraînés à discuter avec un chatbot pour, par exemple, mieux draguer une fille, ou être capable d'envoyer chier leurs parents, je ne sais pas, des choses assez concrètes. Et ils vont demander à Google d'avoir des conversations ensemble sur ces sujets-là. Et bon, jusqu'à présent, j'ai pas vu finalement l'aspect négatif de la chose, parce que c'est vrai que c'est un outil, et les gens l'utilisent comme tel, c'est-à-dire qu'ils savent que c'est pas un psy qu'ils ont en face. Par contre, j'ai vu aussi des applications qui se disaient des applications psychologiques menées par une IA. Là, je conseillerais aux gens de faire très attention.
C'est très dangereux quand même.
Ça me paraît très casse-gueule et je pense que jamais, pour le coup, je pense être un des seuls métiers qui sera préservé d'être remplacé par l'IA, parce que rien ne remplace un humain qui en écoute un autre.
Eh bien, nous écoutons toujours la radio, mais là, on va être obligé d'arrêter. Hélas, on arrive à notre temps d'antenne. On vous remercie beaucoup.
Mais je vous en prie, j'espère que c'était intéressant.
De toutes ces informations, ça a été très instructif pour tout le monde, je pense. Et on passe à la bonne nouvelle, je pense.
Oui,
voilà.
Bien, c'est une bonne nouvelle que j'ai trouvée ce mois-ci sur le site RTBF Actu. Quand le simple fait de regarder la nature guérit. Passer du temps dans la nature a un effet profond sur notre bien-être. Il n'est pas nécessaire de s'immerger en pleine forêt pour en ressentir les bienfaits. Une étude publiée dans la revue Nature Communication montre que le simple fait d'observer des paysages naturels, ces plantes d'intérieur, suffit à réduire l'activité cérébrale liée à la perception de la douleur. Alors, passer du temps dans la nature peut stimuler la créativité ou faire baisser l'anxiété. Et là, je rejoins le thème de l'émission. De nombreuses études et recherches ont bien démontré que le contact avec la nature sur la santé physique et mentale est bénéfique. Les résultats de ces études jettent les bases de futures recherches en explorant l'interaction complexe entre les émotions, la santé et l'environnement naturel. L'intégration d'un contact régulier avec la nature dans l'expérience quotidienne pourrait donc constituer un moyen puissant de promouvoir la santé publique, de favoriser la résilience face à la myriade de défis de la vie moderne.
Voilà, l'émission touche à sa fin. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à la préparer. De vous à nous, nous avons dit presque tout, presque, parce que le sujet est vaste. Mais grâce à toutes ces chroniques et témoignages, et grâce aussi à l'éclairage de notre invité, M. Perron, nous avons pu décrypter et comprendre les souffrances des personnes concernées par ces troubles. Nous avons pu voir, grâce au jeu quiz que nous avons proposé, le nombre incroyable de peurs avec des noms parfois imprononçables. Et au-delà du jeu, toutes ces angoisses aux racines complexes. Ces mal-êtres, les stratégies mises en œuvre avec une dépense d'énergie telle qu'elles peuvent désorganiser la vie quotidienne. Cependant, je trouve une prise de conscience de plus en plus prononcée au sujet de ces troubles qui s'opèrent dans notre société. La preuve, toutes les thérapies proposées, évoquées par Gertrude dans une chronique ou même par les explications de notre invité, M. Perron. Je ne vais pas les rappeler, thérapie cognitive, accompagnement médical, reconnexion à la voiture, à la nature. Il y a certainement une solution adaptée pour chacun. C'est donc la bonne nouvelle de cette émission. Plus personne n'est laissé à l'écart. Donc, nous allons nous quitter sur cette note optimiste, nous retrouver avec un autre sujet dans un petit mois. Toute l'équipe d'ici là vous souhaite le meilleur, des bons moments et prenez bien soin de vous.
Voilà, j'espère que vous n'avez pas vu le temps passer. Il est 13h31, nous étions en direct et bonne journée à tous.
On l'enferme en studio, on la bande, on l'attrape, on la record, on la range, on la fait chanter par un bel âtre. On la taille, on la formate, on la mixe, on la compresse, on la copie, copie sur CD. Une fois qu'elle est pieds et poings liés, on la code barre, elle a beau hurler, mais il est déjà trop tard. On l'a renvoyée aussitôt chez le producteur qui l'attend dans son bureau. Là on la briefing, on la brainstorming, on la training, on la buzz, on la marketing. On l'envoie sur le trottoir, au préco, au turbin, en radio, sur le net et sur le réseau air. Tiens là on la